Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique.
Et à 7h43, notre invité du petit déjeuner politique, c'est Philippe Juvin, professeur de médecine et chef de service aux urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Par ailleurs, maire Les Républicains de la Garenne-Colombes. Bonjour Philippe Juvin.
Bonjour.
Merci
Bonjour.
D'être avec nous en studio en direct. Alors vous le savez, ce matin, lors du défilé du 14 juillet, très particulier, sans public, un hommage sera rendu aux soignants, hein, aux héros de la patrie reconnaissante, comme on dit. Sauf qu'il y a pas mal de héros qui se sont trahis par le fameux Ségur de la Santé. De nombreuses organisations syndicales de soignants dont la CGT et Sud vont donc manifester cet après-midi à Paris et en province, jugeant que les mesures de ce Ségur sont insuffisantes pour sauver l'hôpital public. Qu'en pensez-vous ?
Dans le Ségur, il y a de très bonnes choses et puis il y a aussi beaucoup de communication. Les très bonnes choses, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur la table. Plusieurs milliards, ça n'avait jamais été vu, donc ça, il faut le reconnaître. Mais il est vrai que ces milliards d'euros répartis sur toute la population de gens qui travaillent dans les hôpitaux et les maisons de retraite, eh bien individuellement, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait juste le rattrapage de ce qui nous différencie en matière de salaire entre la France et d'autres pays. Vous savez que les infirmiers, les aides-soignants, les médecins également, sont beaucoup moins payés en France qu'ailleurs. Et on rattrape tout juste la moyenne basse. Voilà. Et
puis,
La moyenne basse, oui. Mais c'est déjà pas mal, je veux dire. Mais attention, quand on parle d'un accord historique, enfin, on est dans de la communication. Et puis, il y a un sujet évidemment majeur, c'est le fonctionnement du système de santé, particulièrement de l'hôpital. Et là, rien n'est prévu. Les dysfonctionnements qu'on connaissait avant la crise vont continuer à être présents. Et c'est aussi ça qui nous préoccupe.
Et pourquoi ça ne se fait pas, ça ?
J'aimerais bien le savoir. Ouais. Je pense qu'ils ont voulu obtenir absolument un accord avant le 14 juillet pour des raisons, là aussi, de communication. Pour que le président puisse faire de belles annonces. Par exemple, l'hyperbureaucratie qui nous noie dans nos métiers de soignants, que ça soit en ville d'ailleurs ou à l'hôpital, cette hyperbureaucratie, en rien elle ne sera touchée, en rien elle ne sera améliorée. Et quand vous allez faire une prise de sang en ville et que vous viendrez ensuite dans mon hôpital 3 jours plus tard, je n'en aurai toujours pas les résultats et probablement je vous referai moi-même la prise de sang parce que la ville et l'hôpital continueront à travailler chacun dans leur coin. Ça, c'est un exemple parmi d'autres.
Il y a quand même beaucoup d'organisations d'affirmations qui aurait voulu 300 euros net, et on est loin des 180, en se disant que malgré tout, on est dans la moyenne basse, comme vous le disiez, Philippe Juvin, par rapport à leurs confrères européens. Vous ne craignez pas, quelque part aussi, une fuite des jeunes infirmiers, infirmières, dans cette profession aussi ?
Bien sûr. Ouais. Un des sujets, d'ailleurs, c'est que le Ségur a été annoncé à grand renfort de trompettes et de tambours en disant « on va créer des postes, je ne sais plus combien de milliers de postes ». Mais vous comprenez que ça ne veut rien dire.
15 000,
et ça ne veut rien dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà aujourd'hui des postes vacants. À quoi sert de créer des postes quand il y a des postes vacants ? C'est ça le vrai sujet. Pourquoi ferme-t-on des lits souvent ? Parfois on ferme des lits parce que les structures sont trop petites, soit, mais parfois on ferme des lits parce qu'on n'a pas les infirmières ou les aides-soignants ou les médecins pour les faire fonctionner. Et donc le vrai sujet aujourd'hui, un des vrais sujets de l'hôpital, c'est pas tant de créer des postes, c'est de pourvoir les postes vacants. Et ça, le Ségur est évidemment silencieux.
Vous parliez des lits, là, à l'instant, Philippe Juvin, il y a le problème de l'argent, forcément, mais des lits, et comme on parle aussi d'une seconde vague de l'épidémie, peut-être pour cet été ou à la rentrée, d'ailleurs, vous avez une idée, même si personne ne peut forcément trop savoir et anticiper.
Moi, je suis médecin, je ne suis pas devin, donc ne sais pas ce qui va se passer.
Vous trouvez que trop de professionnels anticipent ou spéculent ?
Non,
ou...
mais d'abord, mes collègues font ce qu'ils croient bon. Je crois d'abord qu'il ne faut pas... On peut disserter sur une seconde vague, mais le plus important, c'est d'être prêt à cette seconde vague si elle arrive. On observe quand même depuis 2 semaines, c'est Santé publique France qui nous l'apprend, qu'il y a une augmentation du nombre de cas de Covid détectés en ville, testés, détectés, diagnostiqués par SOS médecins. Ce sont des statistiques très, très réelles. Aux urgences et en réanimation, non, mais ce sont souvent des indicateurs plutôt tardifs. C'est parce que d'abord, les cas sont apparus en ville et nous, aux urgences, on les voit tardivement. Donc il y a une augmentation de l'activité en ville liée au Covid et ça, c'est un élément de préoccupation. Alors maintenant, vous dites fermeture des lits et Covid, c'est vrai qu'on a un sujet très particulier, très spécifique, qui est la question des lits de réanimation. Oui. En France, seulement 5 000 lits de réanimation. En Allemagne, 25 000 lits. J'aurais aimé que le Ségur puisse aborder cette question, et cette question n'a pas été abordée.
Pour d'autres professionnels, par exemple l'urgentiste Patrick Peloux, il dit justement que ce Ségur de la Santé, c'était un accord de syndicat quelque part, une magouille de syndicat.
Patrick Peloux, c'est vraiment un homme de qualité qui connaît bien ses sujets. Je veux simplement dire qu'il y a un petit rattrapage salarial, comme je vous l'ai dit, qui ne fait que commencer à compenser la différentielle avec nos pays voisins. S'il veut dire par là que ce n'est qu'un accord très partiel, oui, il a raison en ce sens. Ouais.
La situation des lits dans votre hôpital à vous, Georges Pompidou, à Paris?
Eh bien, comme dans tous les hôpitaux de France, il y a eu un effet qui est un effet mécanique à partir du moment où on a décidé de fermer les chambres à deux lits pour des raisons de risque de contamination entre patients, ce qui est normal. Eh bien, vous avez diminué mécaniquement le nombre de lits disponibles dans les hôpitaux. Donc, dans mon hôpital, comme dans tous les hôpitaux de France, nous avons connu cette évolution qui pose un problème, même si je la comprends.
Ouais. Dernière petite question avant de passer la main à Benjamin. On pose depuis ce matin à 7h cette question sondage à nos auditeurs sur nos réseaux Twitter et Facebook. Avec cette question, attendez-vous un réel changement de cap du président Macron? J'imagine que vous allez l'écouter tout à l'heure aussi vers 13h pour le 14 juillet. Vous, en tant que médecin, professeur de médecine, mais en tant qu'élu républicain, vous attendez un changement de cap du président Macron ?
J'attends un très grand changement de cap, en particulier en ce qui concerne l'autorité. Il y a en France un vrai problème d'autorité. On voit cette insécurité dans les transports, cette insécurité permanente. Les Français n'en peuvent plus des voitures qui brûlent, n'en peuvent plus des poubelles qui brûlent, n'en peuvent plus des rodéos, n'en peuvent plus de cette justice qui ne juge pas, de cette police qui ne fait pas la police, et des peines qui ne sont jamais exécutées. Donc il y a un vrai problème d'autorité en France. Je pourrais parler aussi d'autorité à l'école. Cette question est fondamentale. Les Français n'en peuvent plus, et si le président n'annonce pas de mesures fortes, mais aussi des mesures qui soient évidemment suivies d'effets, parce que combien de mesures fortes nous a-t-on annoncées depuis quelques années qui n'ont rien eu comme effet? Eh bien moi, je suis très inquiet sur la cohésion du corps social.
Vous parlez notamment d'autorité. La question de l'autorité, elle se pose peut-être aussi quand on voit ce qui peut se passer à Nice, ce qui s'est passé dans la Nièvre aussi avec cette rave party, ce non-respect des gestes barrières. Ça aussi, c'est une question d'autorité?
Alors, probablement, oui, vous avez raison, mais pas au même niveau. Je veux dire que quand vous brûlez une voiture et quand vous tabassez à mort un père de famille chauffeur de bus, il s'agit d'autre chose. Moi, c'est de ça dont je parle, qui est totalement inacceptable. Et encore une fois, en tant qu'élu local, moi, je n'en peux plus, si vous voulez, de ne pas pouvoir disposer de forces de police. Je n'en peux plus que les voyous qui sont pourtant pris sur le fait ne soient jamais condamnés. Il y a que des rappels à la loi qui ne veulent rien dire. Et encore, quand ils ont lieu, et encore, quand ils ont lieu moins d'un an après les faits, autant dire que ceux qui ont commis les faits ne s'en souviennent même plus. Enfin, tout ça
bien sûr,
est
c'est
un laisser-aller
fondamental. On parle aussi de santé, voilà. On parle de possibilités de vie ou de mort. Oui. Et notamment, alors vous avez co-signé cet appel des médecins dimanche sur le port du masque. Vous avez entendu Jean Castex dimanche, qui est en Guyane, et qui nous disait, c'est à l'étude, le port du masque obligatoire. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est coupable?
Non, moi, d'abord, aucune culpabilité. Enfin, les gouvernants font ce qu'ils peuvent et avec leurs moyens. Toutefois, à plusieurs...
En tout cas, il y a un retard à l'allumage.
Il y a un vrai sujet sur le relâchement des gestes barrières. Oui. C'est bien montré par toutes les enquêtes d'opinion. D'ailleurs, il suffit d'aller dans la rue pour le voir. Moi, je vais vous dire, c'est simple. Il y a plus de cas qui sont détectés en ville. Si on laisse faire les choses et qu'on ne bouge pas et qu'on ne réagit pas et que le gouvernement ne réagit pas, on peut se retrouver dans une situation dans quelques semaines ou quelques mois à devoir éventuellement reconfiner. Regardez la courbe aux États-Unis qui remonte, hein, ça c'est pas une vue de l'esprit.
On le voit en Californie notamment.
Moi je trouve que ce serait catastrophique parce que le confinement, c'était la mesure qu'il fallait prendre, mais c'est évidemment la pire des mesures à l'exception de toutes les autres. Si on peut...
Mais le masque peut permettre d'éviter ça.
Si on peut éviter de retrouver un confinement même partiel en mettant un masque... Le masque, c'est très compliqué.
Dans la rue aussi.
Moi aussi, je suis comme vous, quand je le mets, il fait chaud, tout ça, c'est très embêtant. Mais entre deux mots, MAUX, il faut choisir le moindre. Non, le masque, nous suggérons qu'il faille le porter dans tous les espaces publics clos. Parce qu'il y a une vraie différence entre quand vous êtes dehors et quand vous êtes dedans. Quand vous êtes dedans, le virus ne circule pas, il n'est pas aéré, les fenêtres ne sont pas ouvertes, etc. Et ça, c'est un vrai sujet. Quand vous êtes à l'extérieur, à condition de ne pas coller, évidemment, c'était l'affaire de la rave party, à votre voix, voisin. Oui. Le virus peut-être circule. Il y a du vent, il y a de l'air qui circule. Non, non, la question, ce sont les lieux clos fermés, les magasins, les commerces, les galeries commerciales, les cinémas, les théâtres, les administrations. Tous ces endroits-là, il faut mettre un masque parce que ça évite que vous infectiez votre voisin.
Est-ce que, Philippe Juvin, ça veut dire que si on rend le port du masque obligatoire, est-ce que ça veut dire qu'il doit être remboursé par la Sécu ?
Je ne sais pas. Écoutez, probablement, oui.
En tout cas, ça a un coût.
Vous avez raison. Oui. Le masque, de toute façon, si l'on considère que c'est un objet de prévention, il faut évidemment le traiter comme tel. Ouais.
Sur la question de la deuxième vague, c'est vrai qu'on doit admettre qu'on sait encore peu de choses, finalement, sur ce Covid-19. Ce qui fait peut-être qu'il y a une peur aussi, puisque quand on ne sait pas, forcément, on a cette inquiétude. Néanmoins, on a une étude assez récente, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 semaines, sur cette question des anticorps. Sur des personnes qui sont infectées et dont les anticorps chutent brutalement autour du 2e mois, à peu près, pour certains. Alors, je ne sais pas si c'est pour tous les malades du Covid-19, je ne sais pas si vous le savez, notamment pour les soignants. Chez vous, à Pompidou, il y a forcément des tests, vous avez pu analyser tout ça. Il y a une chute des anticorps et donc de l'immunité pour certains malades.
Alors, les anticorps commencent à apparaître au 15e jour après l'infection, puis ensuite disparaissent plusieurs mois plus tard. Ça ne signifie pas forcément que vous n'avez plus d'immunité. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres types d'immunité. Ce que vous décrivez là, pardon d'entrer dans les détails, c'est ce qu'on appelle l'immunité humorale, ce sont les anticorps. Ouais. Mais il y a une deuxième type d'immunité quand vous êtes face à un virus ou une bactérie que vous développez, c'est l'immunité cellulaire. C'est-à-dire que vous avez certaines cellules qu'on appelle les lymphocytes T. Et bien ces lymphocytes T jouent également un rôle et vous permettent de vous protéger une fois que vous avez rencontré une fois le virus ou la bactérie. Et ceci, on sait les détecter bien entendu, mais pas par la mesure des anticorps. Donc les anticorps, ce n'est qu'une partie de l'immunité. Et ce que nous espérons, c'est qu'il y a de plus en plus de preuves d'ailleurs pour penser que c'est vrai, c'est qu'il y a aussi une immunité cellulaire assez robuste.
Et ça, c'est important. Est-ce qu'on a assez de masques aujourd'hui en France pour pouvoir fournir tout le monde?
Et il faut poser la question au ministre de la Santé. On ne cesse de nous dire depuis fin janvier qu'il y a assez de masques.
Je vous en parle parce qu'il y a une image, ou en tout cas une interview qui m'a marqué de vous, c'était pour Brut. Si je ne dis pas de bêtises, vous étiez au sein même de l'hôpital Pompidou, où vous remerciez les anonymes sur les dons de masques, de surblouses. À l'époque, c'était au début, je crois, autour de mars, je crois, avril. Où vous en êtes, vous, à ce niveau-là?
Mais bien sûr, vous avez raison. On oublie, mais fin janvier, fin février, fin mars, nous étions dépourvus de tout.
Et les tests aussi.
Il avait fallu que nous appelions à la générosité publique pour recevoir des masques. Moi, je me souviens de gens qui nous envoyaient des masques de Chine parce que l'État ne les fournissait pas. Ouais. Non, nous avons été à poil collectivement durant cette crise. Ce que je souhaite, c'est que s'il y a une deuxième vague, que je ne souhaite pas, bien entendu, il y ait, nous ayons un état de préparation supérieur.
Alors, mais ça, vous ne pouvez pas dire, en tout cas, pour le moment.
Moi, je ne connais pas l'état des stocks, mais il faut demander au ministre de la Santé ou au ministre de l'Intérieur, ou que sais-je, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir à qui. Mais vous savez, il n'y a pas que les masques, il y a les tests.
Bien sûr.
Et je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a une difficulté sur les tests, c'est que 17% simplement, c'est le chiffre de Santé publique France, des gens qui ont des symptômes sont testés. Pourquoi ? Probablement parce que le testing est techniquement, enfin administrativement compliqué. Moi, je pense que ce que je souhaite, c'est que l'État rende le test plus facile en pratique, qu'on aille tester les gens là où ils sont, en particulier sur les lieux de vacances. On ne teste pas assez en France.
Et on parle de nouveaux tests aussi dans les pharmacies dans les prochains jours.
C'est une très bonne chose.
On en est où ?
Mais là, vous savez, on n'arrête pas de parler de nouvelles choses qui arrivent demain depuis 4 mois. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'enfin on prenne la mesure du problème et qu'on aille tester massivement les Français, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, et qu'on aille les tester là où ils sont, sur leur lieu de travail quand ils travaillent, sur leur lieu de vacances quand ils sont en vacances.
Le message est bien passé. Merci beaucoup, Philippe Juvin, d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes professeur de médecine et chef de service aux urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Merci beaucoup.
Merci.
À très bientôt.
À suivre le journal de 8h, bien sûr.
Et après, un autre invité, Michel Yves Labbé, il est PDG de l'application Départ Demain, parce que forcément, cet été très, très particulier. On va voir que les gens partent plutôt à la dernière minute, ou peut-être même qu'ils ne partent pas du tout.
On
en parlera tout à l'heure. Restez avec nous.